Bonjour tout le monde.
C'est le printemps là, hein. Des jonquilles, des petites fleurs. C'est magnifique. On a une pensée pour notre frère Philippe qui se trouve au Togo. Là, il m'a envoyé une vidéo. C'est pas tout à fait les jonquilles, les petites fleurs là-bas. Il est dans un village où il y a de l'eau à 3 mètres sous terre, mais seulement quand il pleut. Et là, il ne pleut pas depuis des mois, donc il n'y a pas d'eau. Et il est allé avec des appareils pour chercher de l'eau afin de pouvoir ravitailler ce village, les gens, les animaux, les cultures. On prie pour lui pour qu'il trouve de l'eau. Normalement, aujourd'hui ou demain, il devrait pouvoir trouver ça. Nous le croyons. En tout cas, il est bien courageux. Je l'ai vu, j'ai vu une vidéo de lui sur une, derrière un Togolais sur une mobilette. Moi, j'ai fait ça une fois avec Nicolas. J'ai tellement eu peur. J'ai dit non, je ne retourne plus. Ah, c'est terrible. Enfin, je retourne plus sur les mobilettes. Voilà, on va lire Marc 8, 36. C'est Jésus qui parle et qui dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Alors, je vous parlais de l'abondance, mais l'abondance, ce n'est pas une accumulation de richesses. L'abondance, c'est une attitude d'esprit face à la vie. Jésus a dit, je vous donnerai la vie dans l'abondance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dedans, mais parce que, comme on dit, hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais c'est pas, on n'est pas en train de chercher à accumuler de l'argent. Quand Jésus parle d'abondance, c'est pas que l'argent. Si dans votre recherche d'argent, vous perdez le bonheur, vous ne voyez pas vos enfants grandir parce que vous êtes toujours en train de bosser, si en gagnant de cet argent vous perdez votre vie, vous avez tout perdu. Jésus le dit, si vous gagnez le monde entier et que vous perdez votre âme, à quoi cette richesse vous servira-t-elle ? On peut perdre son âme aussi, parce que on peut très bien, quand on est à la recherche de la richesse, s'enrichir plus ou moins malhonnêtement. Combien de personnes s'enrichissent et sont perdues, ou se sont perdues? Ils sont souvent écrasés par les soucis. J'en connais qui sont pleins d'argent et qui n'ont pas le temps pour jouir de la vie, ou qui ont des ulcères à l'estomac, qui ont des insomnies. Comme on dit, hein, l'argent ne fait pas le bonheur. Et comme je disais, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. C'est sûr, mais... Il ne fait pas le bonheur des riches non plus. C'est vrai, je connais des gens riches qui sont... J'aime mieux avoir une vie simple, équilibrée, ayant juste de quoi vivre bien, mais sans l'abondance. Qu'est-ce que c'est l'abondance? Ce que Jésus veut pour vous, c'est que vous ayez la vie éternelle abondante. Pour lui, ça signifie, tant que vous êtes dans ce monde, pour vous qui êtes chrétien, les problèmes, ça signifie des solutions. Ça signifie, faites confiance à Dieu qui bénira l'œuvre de vos mains. On trouve ça dans Deutéronome 28, 12, c'est-à-dire que je vois des fois des pubs de... entre guillemets pasteurs ou prophètes africains qui montrent des bus ou des trains remplis d'argent qui arrivent et puis qui déversent l'argent devant une maison en disant voilà la richesse vous a localisé, d'ici une semaine vous allez avoir tout l'argent dont vous avez besoin. C'est une bêtise monumentale, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Suivez ce que Jésus demande et il pourvoira. Il connaît vos besoins, il connaît votre futur, il sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Et votre situation peut s'arranger très rapidement si vous avez des difficultés. Si vous faites ce que Jésus dit, les choses peuvent s'arranger très rapidement. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai enseigné depuis quelques semaines. Vous devez savoir ce que vous voulez. Il faut être précis dans vos prières, savoir ce que vous voulez. Et aussi, il faut faire ce que vous avez à faire pour avoir ce que vous voulez. Et sans trahir les commandements de Jésus, évidemment. Vous voyez, moi je pense que la médiocrité, c'est ne pas oser faire ce que vous avez envie de faire pour avoir ce que vous désirez, par peur de l'échec. C'est ça la médiocrité. Faites comme si vous alliez mourir demain. On entend souvent ça. Hein. Faites comme si vous alliez mourir demain. Personnellement, si je savais que j'allais mourir demain, eh bien je ferais exactement ce que je fais en ce moment. Je vous parlerai de Jésus. Je vous parlerai de Jésus. Et si vous savez que l'échec est impossible, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Parce qu'en fait, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. On va le lire parce que beaucoup de gens se trompent quand ils parlent de ce texte. Ils le religieusisent, je ne sais pas si ça se dit, je ne pense pas. Marc 9, 23, voilà ce qu'il dit Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors, il n'y a rien de religieux dans cette phrase, mais rien. Jésus ne dit pas « tout est possible à celui qui croit en moi ». Il dit « tout est possible ». Quoi, c'est quoi qui est possible? Tout. À qui c'est possible? À celui qui croit. À celui qui croit quoi? Ben que c'est possible. C'est ce que Jésus dit. Alors, si vous aviez su ça avant que je vous le dise, si vous aviez pensé que tout est possible et que l'échec n'existe que pour ceux qui croient que l'échec existe, qu'est-ce que vous auriez fait? Je vais vous laisser 2 secondes réfléchir. Je vous laisse 2 secondes. 1, 2, 3. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez pensé, si vous aviez su que l'échec c'est impossible, que tout est possible à celui qui croit? Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous le savez? Ok, bah faites-le alors. Faites-le. Faites-le. L'autre jour, je vous parlais de votre métier. Si vous aviez 3 millions d'euros sur votre compte en banque, est-ce que vous continueriez à exercer votre profession? Si la réponse est non, c'est que vous n'aimez pas votre profession. Je vous dis une chose, à part les gens qui sont riches par héritage, ça c'est mon petit chien chéri, il a 2 mois, il est très excité, très énervé, là il a trouvé un truc pour s'amuser, il tire dessus et il aboie dessus. Les gens qui sont riches par héritage, à part eux, toutes celles qui sont devenues aisées, le sont parce qu'elles ont aimé ce qu'elles faisaient, elles ont aimé leur travail. Ou alors elles ont été malhonnêtes. Mais je m'adresse à des chrétiens là, je m'adresse pas à des gens malhonnêtes. Beaucoup de gens qui sont des milliardaires continuent de travailler. Parce qu'ils aiment, ils ont du plaisir dans leur travail. Je regardais un reportage sur la télévision suisse. C'est une vieille dame qui tient une boulangerie dans un petit village. Et à 87 ans, elle pourrait s'arrêter de travailler. Eh bien non, elle n'arrête pas. Elle dit « si j'arrête », avec son accent suisse, « Si j'arrête, mais je vais m'ennuyer, puis je vais mourir. J'aime faire mon pain, j'aime bien sentir l'odeur de mon pain, j'aime bien malaxer la pâte, j'aime bien mes clients, j'aime bien quand ils sont contents, j'aime mon métier. Alors elle travaille à son rythme, évidemment, elle a 87 ans, elle ne travaille pas aussi rapidement, elle ne peut pas faire autant de pain que quand elle avait 20 ans. Mais en fait, c'est pas un travail pour elle, c'est une passion, c'est un plaisir. Alors, voyez-vous, l'abondance dont parle Jésus demande une certaine discipline. Par exemple, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez le mot procrastination ? C'est un mot rigolo. La procrastination. La procrastination, c'est très dangereux. C'est limite une maladie mentale. La procrastination, c'est décider, pour aucune raison valable, de retarder, de ne pas compléter une tâche ou un objectif pour lequel un engagement a été pris. C'est faire des choses de moindre importance à la place. Malgré les conséquences qui peuvent être très négatives, qui vont découler du fait que vous ne terminez pas votre tâche, ou que vous n'atteignez pas le but, votre but initial, les activités de procrastination sont celles que nous faisons pour nous distraire. Alors, bon, moi aussi j'aime bien me distraire, mais je fais d'abord ce que j'ai à faire. Alors, ceux qui ne font pas ce qu'ils doivent faire parce qu'ils veulent se distraire, ils ont des excuses. Je suis trop fatigué, mais moi aussi je suis fatigué. Des fois, souvent. Mon père disait « t'es fatigué de naissance ». Ils ont une autre excuse, c'est « j'ai pas les outils qu'il faut ». Ou alors « il vaut mieux que je le fasse quand j'en aurai envie parce que je le ferai mieux ». Ou alors « il fait trop beau ». Oh non, il fait trop beau, le lundi au soleil, il fait trop beau, je veux pas, hein. Oh, et puis il me reste beaucoup de temps, je suis jeune, je le ferai plus tard.
Ouais.
Ça, tu sais pas, hein. Les gens qui procrastinent adhèrent à des règles et à des croyances qui sont malsaines pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres. Et ces règles ou croyances provoquent souvent des sentiments d'inconfort, de colère, de frustration, de ressentiment, d'ennui, d'anxiété, de peur, de gêne, de dépression, de désespoir, d'épuisement. Et souvent les gens qui procrastinent ont peur de l'échec ou de la désapprobation. Elles ont une faible confiance en elles-mêmes. Elles ont confiance en Dieu, mais elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Quelque chose qui ne joue pas là. Quand je dis que l'abondance que promet Jésus demande de la discipline, je pense que vous voyez mieux pourquoi je dis ça. En fait, le manque de décision, de discipline, a une raison neurologique. Vous irez regarder dans le dictionnaire et vous verrez ça. Alors il y a le contraire de la procrastination, c'est un mot qui est moins connu, c'est la précrastination. C'est la volonté de faire très vite nos tâches, le plus vite possible. Mais la précrastination est aussi un déséquilibre. Je vous donne un exemple idiot, mais les exemples idiots, on s'en souvient. Vous êtes en train d'éteindre un incendie qui a commencé dans votre cuisine avec un extincteur, Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous demande de faire du café, alors vous posez l'extincteur et vous allez vite faire du café. Si vous lâchez l'extincteur pour aller vite faire du café, vous avez un sens des priorités qui est un peu faussé. Alors, quand on parle de procrastination, on pense flemmard. Et quand on pense précrastination, on pense à un gros bosseur. Ben non, non. Les deux ne bossent pas si bien que ça. Parce que les deux sont mal organisés. Voilà pourquoi Jésus nous dit d'être disciples. Des gens qui sont disciplinés, qui se disciplinent. Faites ce que vous avez à faire correctement, méthodiquement, puis quand vous aurez fini, vous irez faire le café pour l'autre. Faites ce que vous avez à faire correctement, méthodiquement. La discipline est une règle de conduite qu'on s'impose, et en tant que chrétien, la discipline, c'est l'obéissance aux bonnes règles de conduite données par Jésus et par ses apôtres. Être discipliné en tant que chrétien, c'est être obéissant, c'est être docile, c'est être soumis à notre grand maître, finalement c'est être sage. Alors, en lisant le Nouveau Testament, on découvre 5 piliers, j'en ai trouvé 5, mais il y a peut-être 6 ou 7, mais enfin j'en ai trouvé 5. 5 piliers de la discipline du chrétien. Premièrement, l'acceptation. J'accepte que Jésus a raison. La volonté. Troisièmement, le travail. Quatrièmement, l'assiduité. Et cinquièmement, la persévérance. Je pourrais faire une prédication sur un de ces, sur tous ces. Je pourrais faire 5 prédications là-dessus. Mais je pense que vous devriez prendre un dictionnaire et regarder ce que signifient ces 5 mots, et puis vous allez voir est-ce que j'ai ces piliers dans ma vie. En vérité, c'est la manière d'être honnête, de travailler, d'être motivé, d'être persévérant dans la vigne du Seigneur. Le Seigneur nous a tous envoyés dans sa vigne pour faire quelque chose. Nous avons tous quelque chose à faire et il faut le faire par obéissance, par amour, avec assiduité, persévérance, accepter sa volonté. Voilà, c'est du travail. Un disciple de Jésus est efficace, ponctuel, organisé et concentré sur ce qu'il fait. En fait, on peut compter sur lui. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, on ne peut pas compter sur lui. Voilà pourquoi je dis que la procrastination, c'est quelque chose qui est mauvais pour soi, mais c'est aussi mauvais pour les autres, parce que si vous avez quelqu'un qui procrastine, vous ne pouvez pas compter dessus. Alors oui, Jésus est bon, mais il est aussi un maître exigeant. Il n'est pas gentil. Regardez comment ils traitent les religieux, race de vipères, etc., etc. Vous imposez aux autres des choses que vous ne voulez pas faire vous-même, bande d'hypocrites, etc. Pas gentil. Renverse les tables dans le temple. Il est exigeant, il est juste. Je ne dis pas que Jésus est méchant, mais il n'est pas gentil, bébête. Alors, ne soyez pas que des chrétiens, et surtout pas que des chrétiens du dimanche qui écoutent la prédication puis qui pensent avoir fait ce qu'ils devaient faire en écoutant une prédication. Non, non. Ne soyez pas que des chrétiens. Soyez des disciples. Amen. Amen. Seigneur, je te prie de bénir ces paroles que j'ai dites ce matin afin que mes frères et sœurs trouvent cet équilibre et soit des gens disciples et non pas des procrastinateurs ou des précrastinateurs, mais des gens disciplinés des gens dociles entre tes mains et qui donnent leur vie et qui ainsi peuvent recevoir cette abondance que tu as promis, qui n'est pas forcément une abondance d'argent, quoique ça ne peut pas être non plus. Un chrétien n'a pas à être pauvre, mais une abondance de vie avec la joie de vivre. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En fait, j'ai des bonnes nouvelles au sujet de Diego. Il s'est mis à parler, il respire mieux, son opération a parfaitement réussi. La prière est toujours efficace. C'était très grave ce qu'il avait. Eh bien, on est très content pour la famille de Sharef, pour Ruth, la fiancée, pour tout le monde. Et puis pour Diego, qu'on ne connaît pas encore, je n'ai même pas une photo de lui. Mais ça ne nous a pas empêché de prier et de voir ce que Dieu fait. Amen.
Amen.
Et on remercie Dieu aussi pour Sonia, qui va beaucoup mieux, qui... Oh là là, et Madame Bigler, et Eva, et enfin tous ceux qui nous demandent la prière, nous ne vous oublions pas. Nous ne vous oublions pas. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à bientôt.